Avec lui, tu veux rester poigné dans le trafic. Avec lui, jamais besoin de reprise. Le but est tout le temps bon. Pour tout savoir, voici Martin Leclerc.
Salut Martin!
Salut Martin!
Hey Martin, comment ça va ce matin?
Bon matin les gars, ça va bien? Grosse soirée hier!
Mazin, grosse soirée! Et puis ce matin Martin, là, si on arrive vers 7h16, 7h17, ça se peut qu'on coupe ça, même si t'es en train de nous annoncer que t'as trouvé un remède contre la polio. Parce que... Martin, parce que Anthony Desaulniers ce matin va nous interpréter le but de Loco Locas à 7h20.
Ça fait 50 fois tu le rappelles Max, le mannequin.
Non, c'est un grand moment.
Tony a de la misère à respirer, ça y prend un sac en papier.
ce qui est plate, Anthony, c'est qu'il y a probablement des gens qui vont enregistrer ça, puis ça peut être retenu contre toi longtemps. Ça, soit bon.
Ouais, comme mon commercial là, pour Olivier Kia, là, les gars. Là.
Fait
3-4 jours, vous me mettez dans la face, mais c'est ça, Tony.
C'est en plein ça.
C'est ça.
Le titre de ta chronique ce matin, c'est un clin d'œil à Gilbert, évidemment. Le Canadien remporte le match le plus important de l'histoire du hockey.
Exactement. Puis. Honnêtement, je trouve ça impressionnant. Là. On avait la discussion hier. Max me demandait si, des fois, dans ces circonstances-là, si je célèbre un peu plus sur la passerelle de presse.
Ouais.
Je ne suis pas du genre cheerleader, mais je suis impressionné. Je ne suis pas facilement impressionnable. Mais
T'as-tu laissé partir un sac quand Montembeau a donné le troisième, mettons? Là?
J'étais sans connaissance, honnêtement.
Mais
ça rend l'affaire encore plus impressionnante. C'est un match crucial. Pas beaucoup de chances de marquer les deux côtés, pas beaucoup d'espace. Ton gardien donne deux buts discutables, puis tu parviens à remporter ce match-là quand même. Tu regardes l'alignement, là. Il y a Joshua Roy qui, premièrement, la direction n'a pas apporté de renfort à la date limite. Tu as Joshua Roy qui joue dans l'alignement sur un trio important. Tu as au centre Alex Newhook qui n'est pas un joueur de centre qui joue là. Tu as Yoel Armia qui n'est pas capable de tirer une rondelle ou de manier une rondelle parce qu'il est blessé. Josh Anderson qui joue blessé depuis longtemps. Caden Goulet qui est le défenseur le plus important de cette équipe-là.
Il n'est pas là.
Ouais. C'est la deuxième équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Puis que soir après soir, ils réussissent à sortir des gros matchs contre des équipes qui ont du succès. Là, les sénateurs arrivaient, ils étaient sur une séquence
6-0.
De 6 victoires de suite. Samedi, c'est les Panthers qui étaient là, champions de la Coupe Stanley, qui étaient sur une lancée de 7 victoires en 8 matchs. C'est pas des accidents. Là. Ils font les choses bien. Et c'est absolument, tu sais, sans applaudir sur la passerelle de presse, c'est difficile de ne pas être impressionné par ça.
Ben non, c'est sûr. Surtout avec de l'ambiance que dans le Centre Bell. Puis je sais qu'à la toute fin, pendant les étoiles, quand les joueurs sortent sur la glace, vous êtes pas mal en direction du vestiaire, j'imagine. Là, vous avez, dans le timing, à moins que je me trompe, t'as pas vu
c'est quelque
ou
chose,
entendu
Josh
la foule et Josh Anderson sur la glace. Là.
Non, j'ai pas porté attention, je l'ai pas, j'ai pas vu ça. C'est ça, tu sais, on dirait que les partisans sont en train de retomber en amour avec leur équipe. Là, et honnêtement, je pense pas que ça se passe de cette façon-là dans les autres villes. On pense qu'on est sur du bon côté de la reconstruction. Là, ça va bien, mais même dans les moments les plus difficiles, moi, j'oublierai jamais la saison où le Canadien a terminé au dernier rang. Puis que la foule faisait la vague dans le Centre Bell au dernier match de la saison. J'étais sans connaissance. C'est pas la culture du Canadien. D'où ils sortent ces gens-là? C'est pas, tu sais, normalement, en tout cas, selon la culture à laquelle on était habitué, les gens auraient pas célébré dans le Centre Bell, mais les gens ont fait confiance à la direction de l'équipe.
Ils ont acheté
la
reconstruction, puis let's go.
Exact.
Fait que
c'est impressionnant.
Vraiment. Hey, le prochain sujet, c'est super important parce que c'est une des plus grosses bombes dans le monde du sport sur la scène internationale. Ça se passe dans le tennis. Les joueurs qui lancent une poursuite en vertu des lois anti-monopole. Explique-nous ça.
Oui, ça, c'est absolument incroyable. Il y a une association des joueurs de tennis professionnels qui a été formée en 2019 par Novak Djokovic et Vasek Pospisil, le joueur canadien, pour essayer d'améliorer les conditions de travail des joueurs. Fait que, c'est pas un syndicat officiel reconnu par une instance juridique, mais ils se sont dit, on va se regrouper pour négocier nos conditions de travail, pour essayer d'améliorer les affaires, parce que, honnêtement, ils sont pas bien traités, les joueurs de tennis. Là. Et cette association-là n'a pas été prise au sérieux. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans le tennis, puis tu as les tournois majeurs d'un côté, les tournois du Grand Chelem qui sont là, puis qui ils font leur petite affaire, puis qui génèrent des revenus, à peu près 80% des revenus qu'il y a dans le tennis. Tu as l'ATP puis la WTA qui sont de l'autre côté, puis qui font des règlements, puis qui limitent les bourses que les joueurs peuvent toucher, qui mène au fouet là, les dirigeants de tournois à travers le monde. Et donc, c'est ça, cette association-là n'a pas été prise au sérieux. Et cette association de joueurs-là a déposé simultanément à New York, à Bruxelles, en vertu des lois de l'Union européenne, et à Londres, une poursuite anti-monopole pour dire que les organisations qui mènent le tennis, c'est un cartel qui limite la rémunération des joueurs, qui empêche l'éclosion de toute autre organisation rivale qui voudrait aussi organiser des tournois puis offrir des bourses. En gros, les joueurs veulent former un syndicat comme les syndicats qui existent dans la NFL, dans la NBA, dans le baseball majeur ou dans la Ligue nationale de hockey. Alors, c'est majeur, là, parce que dans les sports individuels, les athlètes sont toujours moins bien traités parce qu'ils sont pas regroupés, ils négocient pas leurs conditions de travail ensemble. Et ça, c'est vraiment une bombe, là. Ça va changer fort probablement le monde du tennis parce qu'ils ont un très bon cas devant eux, les joueurs. C'est effectivement, ils sont confrontés à une organisation qui limite les salaires qui peuvent être touchés par les joueurs. Puis quand tu regardes les bourses que les joueurs touchent, c'est absolument... on s'entend, le tennis, c'est un sport mondial.
Ouais.
Il y a des droits de télévision qui sont vendus dans 200 pays, sur place, dans chaque ville où il y a des tournois. Les billets sont extrêmement chers. Il y a beaucoup de gens qui vont voir ça. Et tu regardes le joueur le plus payé l'année passée, dans le monde du tennis en 2024, Yannick Sinner, 19,7 millions de dollars qu'il a touché en bourse sur le terrain. Le deuxième, Alexander Zverev, 11,5 millions. Le troisième, Carlos Alcaraz, a touché 10,3 millions. Puis là, après ça, là, ça descend à une vitesse vertigineuse. Là, le dixième joueur mondial, Stefanos Tsitsipas, a touché 4,3 millions de dollars en bourse. Il y a combien
ça
de joueurs
dans la... Ça coûte une beurrée, là, sa saison, en plus. Là.
Ouais.
Ben oui, ce gars-là, là, il faut qu'il paie son transport à travers le monde.
Son équipe.
Chambre d'hôtel, son équipe
trainer,
d'encadrement.
Ben oui, c'est ça.
Exactement, son coach, son massothérapeute. Ça, c'est épouvantable. Fait que, et là, on parle des 10 meilleurs au monde. Il y en a combien de joueurs chez les Canadiens qui gagnent 4,3 millions de dollars? Là? Et c'est ouais. pas, on s'entend, la Ligue nationale, c'est pas un sport.
Ça
a l'air
moyen pas mal à cette heure.
Non, c'est ça. Puis au tennis comme au golf, t'es pas supposé dormir.
Le golf, c'est quoi?
Mais le golf, c'est mieux un peu parce que là, les bourses ont augmenté pas mal dernièrement. Mais le problème, ça, c'est souvent pour les gens qui sont placés dans le 150-300 mondial. T'es pas supposé, à mon sens, à moi, si t'es 250e au monde dans ton sport, dormir dans ton auto dans un tournoi parce que t'es pas capable de te payer l'hôtel.
C'est quand même le 250e, c'est bon, là, c'est excellent. Ouais,
c'est ça, mais ça devrait pas.
Absolument, puis on s'entend, le circuit peut pas fonctionner s'il y a pas 150-200 joueurs. Là. Ces joueurs-là sont importants pour faire les grilles de tournoi, pour gravir les échelons, et vivre dans des conditions misérables, ces joueurs-là. Fait que, tu sais, en 2019, quand Djokovic puis Pospisil avaient formé cette association-là, très rapidement, tu avais des joueurs riches, là, des bien nantis comme Rafael Nadal puis Federer qui avaient dit non, un syndicat n'a pas besoin de ça, tout va bien. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de solidarité. Mais là, ça s'est accentué au cours des dernières saisons. Je pense qu'on en a parlé ensemble. T'sais, vous avez vu ça dans l'actualité, là, les joueurs se plaignent, les calendriers sont plus compressés que jamais. Les saisons durent 11 mois, il n'y a pas d'entre-saison. Chaque tournoi adopte des balles différentes. Les joueurs se blessent parce que il y a des balles qui conviennent pas au jeu qu'ils pratiquent. Les blessures, ils n'ont pas le temps de récupérer. Fait que tout le monde les brasse un peu. Là. Puis les tournois, les bourses ont augmenté un peu dans les tournois, mais les tournois sont en contrepartie, les tournois sont de plus en plus longs. Fait qu'il faut que tu joues plus de matchs pour avoir une plus grosse bourse. Fait que tout le monde gruge un peu là, sur les joueurs. Les joueurs touchent à peu près grosso modo, 15% des bourses, 15% des revenus qu'ils génèrent là, dans leur sport. Alors, si tu compares ça avec les sports nord-américains, les joueurs dans la NFL, dans le baseball majeur, dans la Ligue nationale de hockey, dans la NBA, c'est autour de 50%. Là. Fait que il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui se perd du côté des joueurs. Alors, ça va être intéressant de voir ça parce qu'une poursuite en vertu des lois anti-monopole, ça fait en sorte que ça ne pourra pas être ignoré par par l'ATP, par la WTA, par les tournois majeurs. Là, les pénalités qui viennent avec ça, c'est en milliards de dollars.
C'est énorme. Puis l'avocat qui pilote le dossier est habitué à ce genre de négo-là.
Oui, l'avocat qui pilote ça pour les joueurs de tennis, il s'appelle Jim Quinn. C'est une célébrité, Jim Quinn. C'est un avocat de New York qui a participé à des négociations de conventions collectives dans tous les sports majeurs nord-américains, là, dans la NFL, dans la Ligue nationale de hockey, dans la NBA. Il est toujours du côté des joueurs. Il a toujours représenté des joueurs. Il a écrit un livre qui est très intéressant. Là, je vous le conseille. Là, ça s'appelle « Don't be afraid to win ». Et si vous avez une chance de lire ça, ça raconte les coulisses des négociations de conventions collectives dans plusieurs sports majeurs, notamment la convention qui a mené à l'adoption d'un plafond salarial dans la NBA là, au tout début. Fait que c'est un gars fascinant, c'est un cerveau, Jim Quinn. Et Jim Quinn, il était cité dans le communiqué hier qui annonçait la poursuite en vertu des lois anti-monopole. Et il disait, les joueurs de tennis font face aux conditions de travail les plus troublantes que j'ai jamais vues. J'ai passé des décennies à travailler avec des athlètes à travers le monde et le mépris complet du bien-être des athlètes par les pouvoirs qui mènent le tennis est sans précédent parmi tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Fait que c'est quand même fort comme déclaration. Mais c'est vrai que les joueurs ils sont pas bien traités. T'sais, juste par exemple pour les tests antidopage, des fois les enquêteurs débarquent dans le milieu de la nuit en chambre d'hôtel d'un athlète. Il me semble que tu peux attendre.
Ah ouais.
Tu peux attendre au lendemain matin, il me semble, pour
surtout
faire ton test.
Surtout quand t'es obligé de performer le lendemain, là, tu te fais réveiller dans le milieu de la nuit, c'est pas idéal. Là,
les enquêteurs débarquent dans le milieu de la nuit, saisissent le téléphone, interrogatoire, ça a l'air qu'ils se font vraiment brasser, les joueurs. Ouais. Alors, ça va être, si ça passe, s'il y a un syndicat qui encadre les relations de travail des joueurs, ça va beaucoup améliorer le sort des 100 meilleurs joueurs au monde ou des 150 meilleurs joueurs au monde, mais on va voir les bourses exploser. Puis Max, tu disais tantôt que les bourses avaient monté beaucoup au golf récemment. Oui. Pourquoi ils ont monté?
Parce que la livre est arrivée. Ouais. Parce que,
exactement.
Ben oui. Honnêtement, là, si la livre n'est pas là, ils se gagnent encore 2 millions au Players Championship en fin de semaine. Puis la bourse là, était de 4,5. Il n'y a pas de salaire minimum sur le PGA Tour. Là, il y en a un maintenant. Il n'y a pas de salaire minimum sur le Korn Ferry Tour. Là, il y en a un. T'sais. Puis on a beau être contre la livre, puis d'où provient l'argent, puis le management de tout ça.
Ça fait en sorte que les gars font plus d'argent.
Ça fait en sorte que là, le top 300 mondial vit beaucoup mieux qu'il y a 3 ans, ou à peu près.
Exactement. Comme à l'époque, au hockey, l'avènement de l'Association mondiale a fait monter les salaires. Ah oui. Il y avait une ligue rivale. Ça a forcé les propriétaires de la Ligue nationale à améliorer leur game.
Ah oui.
Fait que c'est ça. C'est ce qui va arriver. Dans un sport mondial comme ça, il va rester probablement... Les joueurs de golf sont en train de s'organiser là, pour
ah ouais.
beaucoup améliorer leurs conditions, mais les prochains, je pense, et ça, je pense pas que ça va jamais arriver, ça va être les boxeurs.
Les boxeurs. Jusqu'à ce que Dana White mette sur pied une association de boxe, puis tout le monde jump avec lui. Ça s'en vient, c'est la prochaine étape. Hey Martin, merci de ton temps. On va se reparler demain. On sera en direct de New York, très très hard pour The Biggest Game of the Year.
Ça va être pour vrai la plus grosse. En tout cas, pour les Islanders, ça va être le plus gros match de l'année.
Absolument.
Ça, c'est officiel.
Le Canadien est un lendemain, mais c'est quand même. Si on veut un petit peu d'air pour respirer, là, ce serait le fun de gagner le match de demain aussi. Là.
Salut Martin.
Salut Martin, merci. Bye.